Vous écoutez bien Radio France Internationale, il est midi et demi en temps universel, 15h30 à Moroni. C'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sieur.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Macron et Azali Assoumani affichent leur désaccord à la commission de l'océan Indien. Le président français plaidait ce matin l'intégration de l'île de Mayotte dans cette organisation. Pas question pour son homologue comorien. Deux jours après l'avoir radié des listes électorales, la justice de Côte d'Ivoire devait à nouveau se pencher aujourd'hui sur le cas de Tidjane Thiam. Cette fois, c'est son élection à la tête du PDCI qui est contestée, toujours pour une question de nationalité. Mais l'audience a été renvoyée. Au Bénin, le gouvernement a annoncé hier soir que les attaques du 17 avril contre deux positions de l'armée dans la zone du Point Triple et dans le parc W ont fait 54 morts. Un bilan sans précédent depuis que le pays est confronté aux actions du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Que cherche le JNIM? Peut-on neutraliser sa capacité de nuisance? Abdelaziz Mossi, enseignant à l'université de Parakou et spécialiste des questions liées à la radicalisation et à l'extrémisme violent, est notre invité. Le cinquième sommet des chefs d'État de la Commission de l'océan Indien s'est ouvert ce matin en Antananarivo. Le thème officiel est celui de la sécurité alimentaire. Mais un sujet bien plus épineux est à l'agenda de ce rendez-vous régional, l'intégration de Mayotte au sein de la COI. Paris la plaide, cette intégration, comme c'est déjà le cas pour le département français de la Réunion. Mais pour les Comores qui revendiquent leur souveraineté sur cette quatrième île de leur archipel, il n'en est pas question. Et le président comorien Azali Assoumani l'a dit très directement ce matin à Emmanuel Macron. Reportage Pauline Le Troquier.
Face à ses homologues malgaches, séchellois et mauriciens qui ont toujours pris soin de rester à l'écart d'un dossier jugé franco-comorien, Emmanuel Macron s'est donné pour mission de convaincre. Le président français défend une question d'équité.
Nous ne pouvons pas laisser un territoire et ceux qui y vivent à l'écart d'un certain nombre de nos programmes. Je pense bien évidemment à Mayotte. Nos territoires font face en effet aux mêmes défis et ces défis ne connaissent pas les frontières. Et je sais pouvoir compter sur l'engagement de tous pour avancer de manière pragmatique vers cet objectif.
Fin de non-recevoir immédiate d'Azali Assoumani, en prenant à témoin l'Assemblée, le chef de l'État comorien rappelle que plusieurs résolutions des Nations Unies ont tranché en faveur de la souveraineté de Moroni sur Mayotte et interpelle frontalement Emmanuel Macron.
Mon cher frère Emmanuel Macron, j'ai un professeur qui s'appelle Louis de Funès qui m'a appris qu'il ne faut pas répondre aux provocations. Je tiens également à rappeler que l'ADN de la COI, c'est le respect du droit international. L'île de Mayotte est une île comorienne. Nos pays en sont les témoins.
Le chef de l'État comorien a toutefois affirmé que le dialogue n'était pas rompu et que les deux parties cherchaient à aboutir ensemble à une solution moralement acceptable. Pauline Troquier, Antananarivo, RFI.
Et à l'issue de sa visite d'État à Madagascar, Emmanuel Macron annonce qu'une commission mixte d'historiens franco-malgaches sera mise en place pour faire la lumière sur les événements de mars 1947, la date de la plus grosse répression des forces coloniales françaises à l'endroit des insurgés malgaches. Les historiens de la Grande Île espéraient cette annonce afin d'avoir accès aux archives françaises et de lever les zones d'ombre sur cet épisode sanglante de la colonisation française. Six jours après l'attaque de deux positions de l'armée béninoise, l'une dans la zone du Point Triple à la frontière avec le Burkina et le Niger, l'autre près des chutes de Koudou dans le parc W, le gouvernement de Cotonou a annoncé un bilan très lourd de 54 soldats tués. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis que les groupes terroristes ciblent le Bénin. Et pour les autorités, le manque de coopération avec les pays voisins n'y est pas pour rien. Wilfried Ungbeji est le porte-parole du gouvernement béninois.
Je voudrais, avec émotion et non sans gravité, réitérer les condoléances et la compassion du gouvernement à l'endroit des familles éplorées, à toute la nation. Chaque enfant du Bénin qui meurt, c'est toutes les familles du Bénin qui sont éplorées. Et dans le cas d'espèce, 54 stabilisés, même si ça ne fait pas les 70 et plus que les gens ont annoncé, c'est beaucoup, voire trop, il est difficile d'en parler. Notre situation serait autrement plus facile si nous avions une belle coopération avec les pays qui nous entourent, si de l'autre côté de la frontière, il y avait un dispositif au moins comme le nôtre, ces attaques ne se dérouleraient pas de cette façon ou ne se produiraient même pas. Ce n'est pour accuser personne. Nous sommes assez responsables. On ne souhaite pas perdre davantage d'enfants. Depuis ces événements, le chef de l'État a eu des séances multiples avec le haut commandement militaire pour évaluer la situation, les stratégies. Tout cela a été débattu. Je peux vous dire notre assurance qu'à un moment ou à un autre, nous vaincrons. Nous ne céderons pas. Tôt ou tard, nous viendrons à bout de ces criminels et de leur entreprise mortifère.
Des propos recueillis par Jean-Luc Aplogan dans la deuxième partie d'Afrique Midi. Abdelaziz Mossi, enseignant en sociologie à l'université de Parakou, est notre invité. En Côte d'Ivoire, deux jours après la décision du tribunal d'ordonner la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale, il y avait ce matin une audience sur le fond concernant une autre plainte. Une plainte portée par Valérie Yapo, militante du PDCI, qui conteste la légalité de l'élection de Tidjane Thiam à la tête de l'ancien parti unique. Binta Diagne, vous étiez sur place. À peine ouverte, cette audience a été renvoyée.
Oui, Nicolas, l'audience a été très courte. La présidente du tribunal a renvoyé le procès au 8 mai pour transmettre le dossier au parquet et recevoir ses observations. Auparavant, chaque partie avait donné ses arguments par écrit au tribunal. Sur le fond, Valérie Yapo, qui est membre du bureau politique du PDCI, estime que Tidjane Thiam a été élu à la tête du parti de manière illégale, d'abord parce qu'il ne remplissait pas toutes les conditions du parti, mais surtout parce qu'il était français. Or, pour diriger le PDCI, il faut être ivoirien, selon les statuts. Selon Valérie Yapo, au moment du congrès du PDCI, Tidjane Thiam aurait perdu la nationalité ivoirienne en vertu de l'article 48 du Code de la nationalité. C'est cette même disposition qui a conduit un juge cette semaine à demander sa radiation du fichier électoral dans une autre affaire.
Alors aujourd'hui, le PDCI appelait à la mobilisation devant les tribunaux. Qu'en est-il de cet appel à mobilisation ?
Eh bien, la marche a été tout simplement reportée. Les députés du PDCI affirment attendre la prochaine audience au tribunal, donc le 8 mai, pour mobiliser à nouveau les militants. Mais il faut souligner que la mobilisation s'est faite au compte-gouttes. Les militants étaient censés venir à 9h. Ils ont mis du temps avant de converger vers la maison du parti, au plateau. Du retard donc au démarrage. Et plus de raisons donc officielles de marcher, puisque l'audience elle-même s'est terminé beaucoup plus tôt que prévu, selon les députés, à l'initiative de cet appel. Sur le fond, les messages restent les mêmes. Les députés du PDCI dénoncent un déni de justice, selon leurs mots. Nous voulons la réinscription sur le fichier de Tidjane Thiam, de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudé, affirme Simon Dau, le président du groupe parlementaire du PDCI.
Binta Diagne, en direct d'Abidjan. L'actualité en République démocratique du Congo. Pour la première fois, les délégués de la présidence congolaise et du groupe armé AFC M23 communiquent officiellement sur les pourparlers de Doha. Dans une déclaration conjointe, ils annoncent avoir convenu de travailler à la conclusion d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif. Le ministère qatari des Affaires étrangères s'en dit heureux et salue un esprit constructif. Mais qu'est-ce qui change concrètement ? Élément de réponse avec Patient Ligodi.
Ce n'est pas encore un cessez-le-feu, ce n'est pas non plus une trêve. À ce stade, c'est une déclaration d'intention, un communiqué dans lequel les deux parties affirment avoir convenu de travailler ensemble à un accord. Comme RFI l'annonçait déjà, ce texte était prêt depuis le 17 avril. Il avait été élaboré 4 jours après la fin des discussions directes entre les délégués de Kinshasa et ceux de la FCM23. Il manque plus que l'approbation formelle de Félix Tshisekedi. C'est désormais chose faite, le président congolais a donné son feu vert. Et les documents ont été publiés dans la foulée conjointement par les deux parties. Et la prochaine étape, il s'agit maintenant de respecter les engagements pris avant d'ouvrir un véritable dialogue de fond. Parmi ces engagements, le rejet des intimidations et la volonté de créer un climat propice aux échanges. Le dialogue attendu doit porter, selon les deux parties, sur les causes profondes du conflit et sur les modalités concrètes pour ramener la paix dans les territoires de l'Est. Cette annonce intervient aussi au lendemain d'une rencontre entre le ministre d'État qatari, Mohamed El Koulaifi, en charge du dossier, et Massad Boulos, le nouveau conseiller principal pour l'Afrique à la Maison-Blanche.
À nouveau, l'administration Trump taille dans ses dépenses à destination de l'Afrique. Elle a ordonné du Millennium Challenge Corporation Elle a ordonné la suspension du Millennium Challenge Corporation. Le MCC est une agence qui investit 17 millions de dollars dans des projets d'infrastructure depuis sa création il y a 20 ans. Destination principale de ces fonds, le continent africain. Alexis Bédu, les États bénéficiaires n'auraient pas encore été informés, mais le MCC va se retirer immédiatement des projets qu'il menait.
Oui, tout cela est très soudain. Encore le 3 avril dernier, le MCC lançait un avis de passation de marché pour des sites de stockage d'électricité au Sénégal. Valeur de l'investissement pour l'ensemble du programme sénégalais, 1,5 milliard de dollars. Le MCC finance également sous forme de dons des projets d'infrastructures en cours de développement en Zambie, au Mozambique ou encore au Togo. On parle là de construction de routes, de modernisation de réseaux électriques. Des investissements américains indispensables pour faire aboutir ces projets qui ont aujourd'hui du plomb dans l'aile.
Le DOGE, hein, la commission pour l'efficacité gouvernementale pilotée par Elon Musk, a tout de même autorisé des dérogations.
Et c'est le cas pour la Côte d'Ivoire. Les travaux d'un échangeur au grand carrefour de Koumassi à Abidjan financé par le MCC pourront se terminer. Le Sénégal disposera de 3 mois pour sécuriser les chantiers en cours. Suspension des travaux donc, mais sans forcément pouvoir les achever. Le MCC est moins bien doté que l'USAID, hein, l'agence des États-Unis pour le développement international, également en cours de démantèlement par Donald Trump. Mais c'est une aide importante pour les États-Unis et un outil d'influence important également pour les États-Unis.
Le président kényan William Ruto poursuit une visite d'État de 5 jours en Chine. Il s'agit de son 3e voyage à Pékin depuis son entrée en fonction en 2022, Cléa Broadhurst.
Cette visite montre une volonté affichée de renforcer l'unité du Sud global. 20 accords ont été signés, couvrant les domaines de la science, de l'éducation, de l'e-commerce, de l'eau, des transports intelligents ou encore du développement ferroviaire. Côté infrastructure, le Kenya espère obtenir un nouveau financement chinois pour prolonger la ligne ferroviaire jusqu'à la frontière ougandaise et élargir l'autoroute entre Nairobi et Mao Summit, deux chantiers majeurs pour l'intégration économique régionale. Dans un contexte de tension commerciale avec les États-Unis, qui impose désormais une taxe de 10% sur toutes les exportations kenyanes, William Ruto cherche à diversifier ses partenariats. Il a salué le soutien de la Chine, notamment via les projets des nouvelles routes de la soie. À l'université de Pékin, le président kenyan a critiqué l'ordre mondial actuel, qualifiant le Conseil de sécurité de l'ONU de « cassé » et dénonçant des politiques commerciales américaines jugées destructrice. Xi Jinping appelle, lui, à une coopération renforcée autour de la souveraineté et de la modernisation. Il plaide pour des efforts conjoints pour le commerce, le multilatéralisme et la solidarité avec le Sud global. Claire Broderst, Pékin, RFI.
Afrique Midi sur RFI.
Il est 14h43 à Paris dans la deuxième partie d'Afrique Midi au Cameroun. Un tweet de Paul Biya qui relance l'hypothèse d'une nouvelle candidature à la prochaine présidentielle. Au Congo, le ramassage des ordures de Pointe-Noire et de Brazzaville confié à une société turque. Et du basket avec le tirage au sort de l'afro-basket féminin hier soir à Abidjan. Paul Biya sera-t-il candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle prévue en octobre au Cameroun? À 92 ans, dont 43 déjà passés au pouvoir, le chef d'État ne s'est pas encore formellement déclaré, mais les indices se multiplient. Hier, sur son compte X, il a dit vouloir continuer à tout mettre en œuvre pour perpétuer une profonde mutation sociale. Une manière, semble-t-il, de se projeter au-delà de son actuel mandat, Polycarpe Somba.
Alors que les spéculations vont bon train sur ses intentions, cette sortie est venue rajouter à une constance observée depuis les tout récents discours de Paul Biya. Lors de son discours de vœux à la nation, le président camerounais disait déjà sa détermination à servir intacte. Quelques semaines plus tard, à l'occasion de la célébration de la fête de la jeunesse, Paul Biya se projetait une nouvelle fois en disant notamment « Je continuerai de me tenir à vos côtés pour relever les défis auxquels vous êtes confrontés ». Avec ses derniers tweets, Paul Biya lève un peu plus le doute sur ses intentions et semble dérouler un plan de communication par petits pas progressifs vers l'annonce de sa candidature. Une candidature que son parti, le RDPC, a déjà pour sa part entérinée, le parti ayant à de nombreuses reprises indiqué qu'il n'avait d'autre candidat que son président national, qui n'est nul autre que Paul Biya. Et ce, en dépit de quelques impatiences exprimées en sourdine par certains cadres du parti, qui espèrent toujours que le président passera la main, en dépit aussi des protestations dans les rangs de l'opposition, à l'instar du MRC par la voix de Maurice Kamto, qui avait jugé cette possible candidature de criminelle ou de certains certains évêques de l'Église catholique qui ont ces derniers mois pressé le président Paul Biya à renoncer à cette ambition. À un peu moins de 6 mois de l'élection présidentielle, cette question ne tardera pas à être tranchée. Polycarpe Somba Yaoundé, RFI.
Les deux principales villes du Congo, Brazzaville et Pointe-Noire, signent un accord de collecte d'ordures avec la société turque Albeyrak. Il doit durer cet accord 5 ans, Loïcia Martial.
Au terme de la signature de cet accord, le responsable de la société turque Ersol Nekmetin a indiqué que pendant 5 ans, le travail de son entreprise va consister à ramasser les ordures dans les 2 agglomérations. Le service va démarrer dans 2 semaines dans la ville de Brazzaville et dans 1 mois à Pointe-Noire. Juste Désiré Mundele, ministre de l'aménagement de la ville, a donné plus de détails.
Aujourd'hui, dans le contrat actuel, nous sommes plutôt sur le tournage, à savoir que les estimations sur Brazzaville et Pointe-Noire sont de 1500 tonnes en ce qui concerne donc le tonnage, soit 1000 tonnes à Brazzaville et 500 tonnes à Pointe-Noire.
Il s'agit là d'un tonnage journalier. Manager général de l'ONG dénommé Protecting Environment Association, Serge Patrick Mvoma a émis un vœu quant à la bonne gestion des ordures.
On aimerait qu'ils mettent en place un système aussi, même des mécanismes de plainte, de démocratiser un peu cette gestion. De telle sorte que s'il y a des manquements, le citoyen lambda puisse justement émettre des plaintes par rapport à cela pour que ça puisse contribuer justement à l'amélioration de la gestion des déchets. Nous souhaitons que ça se passe comme ça, pour le bien des citoyens congolais.
La société turque va prendre la relève de l'entreprise Averda, dont le contrat est arrivé à son terme en septembre dernier. Loïcia Martial, Brazzaville. RFI.
Les sports, les 4 poules du prochain Afrobasket féminin sont désormais connus. Les 12 pays qualifiés pour la compétition prévue en Côte d'Ivoire du 26 juillet au 3 août ont été fixés hier soir à l'issue d'un tirage au sort à Abidjan. Reportage Molamine Sissavané.
Honneur aux reines du basket africain par la voix d'une cantatrice pour démarrer la soirée du tirage.
Côte d'Ivoire, Égypte et Angola.
Ainsi formé le groupe A du pays hôte qui a fait bourdonner la salle. La joueuse ivoirienne Flora Ouraga préfère en sourire.
Mais en tout cas, on respecte vraiment ces équipes. Hein. Il n'y a pas de stress, en tout cas on se donnera à fond. Peu importe l'adversaire, la solidarité, la défense pourra nous envoyer loin.
Mali, Cameroun et South Sudan.
Quant à ce groupe B, le patron de la fédération malienne Jean-Claude Sidibé n'en a qu'une lecture. Son pays doit triompher après avoir été sur le podium 4 fois de suite.
Depuis 2017, le Mali est sur le podium. Maintenant, on aspire à gagner la Coupe. Et si on veut gagner la Coupe, il faut battre le Nigeria, il faut battre le Sénégal, il faut battre la Côte d'Ivoire. Notre équipe a gagné en maturité, Inch'Allah.
Sénégal, Uganda et Guinée.
Pour le petit poussé de la poule C et la Guinée, les ambitions sont à la hauteur des adversaires. Amara Babila Keïta, nouveau président de la fédération guinéenne.
L'avantage qu'on a, c'est qu'on vient comme un outsider. Aujourd'hui, personne ne connaît la configuration de l'équipe féminine de la Guinée. Nous allons tout mettre en œuvre pour que notre équipe parte le plus loin possible.
Le groupe D est composé du Mozambique, du Rwanda et surtout du Nigeria et ses reines du basket africain, vainqueurs des 4 dernières éditions de l'Afrobasket. Molamine Sissavané, Abidjan, RFI.
Il est midi 48 à Abidjan. Anne Kantner, les grands titres de ce jeudi 24 avril 2025.
La tension de plus en plus grande entre l'Inde et le Pakistan, 2 jours après une attaque très meurtrière dans la région indienne mais disputée du Cachemire. Après de premières sanctions diplomatiques hier, le gouvernement indien a annoncé qu'il ne délivrerait plus de visas aux Pakistanais et que tous ceux se trouvant actuellement en Inde devaient quitter le pays. Suspension de visa aussi du côté pakistanais, expulsion de diplomates, fermeture de la frontière. L'espace aérien est également fermé aux avions indiens et l'ambassadeur à Islamabad est convoqué par les autorités pakistanaises. Le président ukrainien se dit prêt à des concessions, mais il refuse de céder la Crimée, région annexée et occupée par la Russie depuis 2014. C'est pourtant ce que lui demande Donald Trump en le pressant de trouver un accord avec Moscou. Pendant ce temps, la guerre se poursuit. La Russie a envoyé des dizaines de missiles et de drones la nuit dernière. Les autorités ukrainiennes déplorent 8 morts et plus de 70 blessés. Bombardements aussi à Gaza. Ils ont tué 25 membres d'une même famille dans le nord du territoire. Et puis, une attaque au couteau dans un lycée en France, à Nantes, dans l'ouest. Un élève a été tué par un autre jeune de l'établissement et 2 sont blessés. Au Bénin, le gouvernement a donc annoncé hier un bilan de 54 morts après les attaques du 17 avril dernier contre deux positions de l'opération antiterroriste Mirador dans le nord du pays. On est là dans la zone frontalière du Burkina et du Niger. L'attaque a été revendiquée par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, lié à Al-Qaïda, qui avait mené déjà une attaque très meurtrière dans cette région en janvier dernier. Le docteur Abdelaziz Mossi, socio-anthropologue, enseignant à l'université de Parakou et spécialiste des questions liées à la radicalisation et à l'extrémisme violent, est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour, docteur Mossi.
Bonjour.
Pourquoi, selon vous, le JNIM tape-t-il aussi fort dans le nord du Bénin? Qu'est-ce qu'il cherche?
Merci beaucoup. Et le JNIM cherche plutôt un ancrage local au niveau du nord du Bénin depuis quelques années, avec des attaques surprises qui sont perpétrées depuis environ 5 ans maintenant. Je dirais que de plus en plus, ces attaques sont fréquentes et on constate que depuis la mi-2024, il ne se passe pas un mois sans que le territoire béninois ne soit attaqué par ce groupe extrémiste violent.
Mais un ancrage local, dans quel but? Est-ce qu'il veut faire un poste avancé pour faire plus d'attaques dans les pays côtiers?
Je pense que le JNIM doit être dans une stratégie de contrôler sans gouverner. Ils essayent donc de contrôler à la fois les communautés qui sont dans cet espace, mais aussi contrôler l'espace géographique pour avoir la possibilité de se mouvoir comme ils peuvent le faire et puis traverser le territoire béninois, se retrouver aussi du côté du Nigeria ou même du côté du Togo. Bref, ils cherchent une mobilité plus aisée dans cette zone-là, non pas forcément pour créer un État où ils vont forcément gouverner, mais créer un espace où ils assurent le contrôle total à la fois sur le territoire, mais aussi sur les populations pour pouvoir mener des activités, y compris des attaques dans les autres pays comme le Burkina Faso et le Niger, où la menace est encore beaucoup plus pressante sur cette organisation-là. Donc, le territoire béninois reste un territoire qui est très convoité dans le but donc d'avoir ce contrôle et d'avoir cette possibilité de se mouvoir dans l'espace des trois pays, le Bénin, le Burkina Faso et le Niger.
Mais est-ce qu'il a des bases en territoire béninois ou est-ce qu'il attaque depuis le Burkina et le Niger voisins?
Des bases fixes, non, pour le moment. Il n'a pas encore de base fixe sur ce territoire-là, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas plus ou moins permanent sur ce territoire, parce que pour réussir ces attaques, il faut avoir des attaches, il faut avoir des personnes ressources au niveau local qui sont positionnées de manière permanente, qui fournissent les informations, qui étudient également le mouvement de l'armée dans cette zone-là. Donc oui, les assaillants viennent souvent des pays voisins, mais ils ont quand même des points d'attache au niveau des communautés locales qui leur fournissent des informations sur la position de l'armée et qui leur donnent forcément le top pour pouvoir faire des attaques surprises.
Docteur Mossi, une importante opération antiterroriste Mirador est déployée dans le nord du Bénin depuis plusieurs années pour tenter d'endiguer ces attaques djihadistes. Est-ce qu'il faut déduire de ces nouvelles attaques du 17 avril que cette opération ne marche pas?
Je ne dirais pas que ça ne marche pas, mais cela juste veut dire qu'il y a des faiblesses dans l'organisation, dans le positionnement de l'armée dans cet espace-là. Cela montre aussi qu'il y a des failles dans la stratégie nationale en matière de lutte contre l'extrémisme violent.
Lesquelles?
Et donc, les failles d'abord, c'est la méconnaissance du terrain, c'est la faible collaboration avec les communautés locales. Malgré les efforts qui sont fournis par l'État, par les organisations de la société civile, l'armée n'a pas encore réussi à gagner le cœur des populations parce que, il faut aussi le signaler, un certain nombre de pratiques qui ne sont pas forcément appréciées par les communautés font que les communautés développent une certaine méfiance vis-à-vis de l'armée. Je veux parler par exemple des emprisonnements parfois abusifs que l'on constate qui sont opérés par l'armée, qui envoient un certain nombre de jeunes de cette région-là directement à la criette sans faire des enquêtes approfondies sur l'implication ou non de ces jeunes. Et tout ça, ça reste, mais il y a aussi l'application de certaines mesures de restriction comme le couvre-feu qui est instauré dans ces zones depuis bientôt 2 ou 3 ans et qui a fini par amener les populations dans une situation de lassitude. Et on voit aussi que l'efficacité de ce couvre-feu reste très limitée. parce que malgré le couvre-feu, ces attaques continuent, alors que l'objectif était de réduire ces attaques-là en limitant la mobilité des populations. Donc, les populations locales souffrent davantage de ces mesures, plus que les groupes extrémistes violents contre lesquels ces mesures sont prises. Et ça commence par frustrer les communautés qui n'arrivent plus à mener leurs activités économiques comme cela se doit. Donc, tout ça, ça fait qu'il y a une certaine désaffection entre l'armée et la population. Et malheureusement, ces groupes, le GNIM, profitent largement de cette situation-là. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi des revendications que nous avons suivies dans les messages qui sont envoyés, et comme quoi l'armée emprisonne des populations civiles innocentes.
Le gouvernement béninois regrette, lui, le manque de coopération avec les pays voisins, le Burkina et le Niger. Ces trois pays ne travaillent pas du tout ensemble, il n'y a pas de coordination militaire, pas d'échange de renseignements.
Alors, officiellement, il n'y a pas du tout de coopération entre ces trois pays, malheureusement. Le Bénin avait signé un accord de coopération militaire avec le Niger, mais avec la situation que vous connaissez, le Niger a dénoncé cet accord-là. Et donc, désormais, le Bénin n'a plus la possibilité d'intervenir, parce que dans cet accord, il était question que le Bénin ait la possibilité donc d'intervenir sur le territoire nigérien, je crois jusqu'à 10 kilomètres, et que le Niger également ait cette possibilité. Mais désormais, cette possibilité n'est plus d'actualité. Et donc, le Bénin est confiné à l'intérieur de ses frontières, alors que nous savons que ces attaques où les assaillants viennent majoritairement donc de ces territoires, notamment le Burkina Faso et le Niger. Et donc, cette situation de crise entre les trois pays fragilise beaucoup la stratégie béninoise en matière de lutte contre ces organisations.
Merci, docteur Abdelaziz Mossi. Cet entretien sera à retrouver sur le www.rfi.fr et sur nos applications, rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Et à direction à présent, Bangui. Il y a tout juste 10 ans, alors que les violences déchiraient la capitale centrafricaine entre miliciens Séléka, majoritairement musulmans, et anti-Balaka, en majorité chrétien, les habitants du 2e arrondissement lançaient la réhabilitation de la mosquée de Lakwanga, qui avait été pillée et très endommagée dans ces violences. Des habitants chrétiens, pour la plupart. Aujourd'hui, 10 ans après, la mosquée est devenue un exemple de cohésion sociale et du vivre ensemble. Reportage Rolf-Steph Domialeux.
Sur le toit de la mosquée de Lakwanga, le muezzin est confortablement installé dans une pièce décorée de versets coraniques. À ses côtés, une horloge affiche les heures des 5 prières qui rythment la journée des fidèles. Christian Emendota est l'initiateur de la réhabilitation. Ce journaliste et partisan de paix habitait non loin de la mosquée. Aujourd'hui, il regarde fièrement les fidèles qui arrivent dans ce lieu sacré où les musulmans étaient indésirables entre 2014 et 2015.
On a vu cette foule converger vers la rue de la mosquée. Et on était là impuissants, on a entendu des bruits de destruction. Et après, on a vu des gens repartir, certains avec des tapis de prière, des tôles, certains avec des chaises. Même d'autres ont pris les appareils de sonorisation. Il y a eu le vol, il y a eu le vandalisme.
À quelques mètres de la mosquée, Mario, un jeune de confession chrétienne, enlève ses lunettes noires pour bien regarder le bâtiment réhabilité. Il fait partie de ceux qui avaient protégé la mosquée.
Le jour où ils ont détruit la mosquée de Lakwanga, j'avais écrit sur internet, j'envoyais des textos, on faisait des réunions, on mobilisait les jeunes pour dire que nous, on est natifs de Lakwanga, on a vécu ensemble avec tous les musulmans qui vivaient ici à Lakwanga. C'est pas à nous de venir détruire la mosquée, respecter la confession de tout un chacun.
Détruite en mai 2014, la mosquée de Lakwanga avait pourtant été réhabilitée avant d'être à nouveau détruite en 2015. Grâce à la mobilisation des habitants du secteur et quelques bienfaiteurs, les travaux de réhabilitation ont été relancés le 24 avril 2015. Christian Aimé Ndota.
10 ans après, ça c'est comme un symbole. Et en bâtissant cette mosquée, c'était une manière de montrer à ceux qui n'aiment pas la paix dans ce pays que c'est véritablement un symbole de paix pour que la République centrafricaine demeure définitivement dans la paix et la réconciliation.
À l'intérieur de la mosquée, plusieurs centaines de fidèles sont assis sur des nattes ou des tapis dans le respect de la tradition. Dans sa prédication, l'imam Salih Ndiaye insiste sur le mot « pardon ».
La mosquée de Lakwanga est un lieu sacré. Lorsque tu détruis un lieu sacré, tu attises la colère de Dieu sur toi. Il ne faut pas que les manipulations politiques nous poussent à diviser le peuple en faisant une guerre de religion.
Chaque semaine depuis 10 ans, un comité de paix sensibilise les habitants de Lakwanga et des autres quartiers de la capitale sur la préservation des lieux sacrés lors des mouvements de colère. Wolf-Estève Domialeu, Bangui, RFI.
Et c'est à Bangui que se referme cette demi-heure africaine réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Mickaël Goncalves et Pierre Vallée. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain Nicolas Sûr. Vous restez avec nous, on se retrouve dans 30 secondes pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Vous le savez, vous pouvez aussi écouter une demi-heure d'information en full day ou bien en portugais selon votre situation en Afrique. À tout de suite.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Comme chaque semaine, un sujet de santé au féminin est traité de manière pratique. Demain, Caroline Paré aborde la question de l'arthrose. Cette maladie articulaire du cartilage concerne 18% des femmes contre 9,6% des hommes. Pourquoi les femmes sont-elles plus touchées?
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à 9h10 TU sur RFI.